Vous êtes sur Afro Panorama et vous écoutez Entrevue. Notre invité aujourd'hui s'appelle Murphy Lutete. Murphy Lutete est avocat au barreau de Matadi et conseiller du gouverneur de la province du Congo central, Atu Matubwanga. Bienvenue à tous.
Murphy Lutete, bonjour. Je vous laisse vous présenter au public avant de continuer cette interview.
Ce qui est le plus important, c'est que Maître Murphy Lutete, comme tu dis, avocat au barreau du Congo central. Maître Murphy Lutete est conseiller en charge des questions politiques de la territoriale et de la décentralisation de son excellence, monsieur le gouverneur de province du Congo central, Atu Matubwanga Nkuluki. Maître Murphy Lutete est le secrétaire général de la jeunesse responsable et cadre de l'AFDCA, regroupement politique cher à l'honorable sénateur Modeste Batulko.
Merci, Maître Murphy Lutete. Vous êtes connu dans le milieu politique dans le Congo central, à Matadi plus particulièrement où vous exercez. Si nous avons demandé à parler avec vous aujourd'hui, c'est à propos de l'affaire qui défrait la chronique et qui oppose le vice-gouverneur Luemba Makoso à Madame Muyita Nkieta. C'est un secret de polichinelle, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le témoignage de quelqu'un qui est aux premières loges. Parce que vous savez, quand il y a un scandale, il y a des faits, et puis il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé et de faire la part des choses entre les rumeurs et les faits. Donc, Madame Muyita Nkieta travaillait au gouvernorat. Quel était réellement son poste au gouvernorat?
Madame Muyita était assistante de son excellence, monsieur le gouverneur de province.
Était assistante de son excellence, monsieur le gouverneur de province. Assistante de son excellence, ça consiste en quoi exactement? C'est quoi son travail?
Non, l'assistant, c'est un terme générique. Oui. Un assistant, c'est celui qui assiste le gouverneur, mais c'est-à-dire c'est le gouverneur qui attribue des tâches précises. Mais on est assistant. Mais quitte au gouverneur, maintenant, de définir, vous assistez en quel domaine.
Et donc, sa présence au niveau du gouverneurat, c'est le fait même du gouverneur lui-même, si je comprends bien.
Sa présence au gouverneurat, c'est le fait de l'acte juridique qui l'a nommé. Qui a fait qu'elle soit présente aux côtés du gouvernement.
Alors, quel était son profil qui plaide pour qu'elle puisse occuper un tel poste? Quel a été son parcours? Est-ce qu'elle a été membre de son parti politique? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des compétences particulières? Qu'est-ce qui a fait qu'elle se soit retrouvée à ce poste-là? Et si ma mémoire ne me trahit pas, elle y était depuis un mois, 2 mois tout au plus, c'est bien ça?
Nous sommes tous dans un même arrêté avec elle. On a été nommé le 11 juillet 2019 ensemble. Mais il faudra retenir que dans le cabinet politique, chacun sait comment elle est arrivée. Donc, il y a que le gouverneur qui sait utiliser les collaborateurs. Dans un cabinet politique, les profils, c'est le chef qui les dessine. Et il sait qu'à tel endroit, j'ai besoin de tel profil. À tel endroit, j'ai besoin de tel profil. Il est difficile quant à nous de dire qu'elle avait tel profil. C'est le chef qui sait pourquoi il a placé tel à tel endroit.
Alors, on va revenir aux faits. C'était le 26 août que Madame Muyitha Nkeita s'est retrouvée on va dire en situation délicate avec le vice-gouverneur, et elle a accusé d'avoir tenté de la violer avec une vidéo qui a circulé où on voyait le gouverneur déshabillé en présence de policiers, en présence d'un représentant de l'ANR, si je ne me trompe pas. La question que je pose à présent, elle s'adresse aux juristes que vous êtes. Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond dans le traitement de ce dossier-là?
Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond dans le traitement de ces dossiers-là? Ça ne sera pas impossible pour moi de répondre à cette question, mais ça sera délicat pour moi de répondre à cette question parce que je suis un officiel en tant que conseiller politique du gouverneur. Et quand on est conseiller politique du gouverneur, on est à la fois conseiller politique du gouverneur et de son vice-gouverneur, puisque le dé constitue un seul cabinet. Donc, par rapport à cette situation, tous nous l'avons suivi dans les réseaux sociaux. Il est difficile de déceler les vrais problèmes, mais puisque le dossier se trouve entre les mains de la justice, je pense que la justice, par le jugement définitif, va établir des responsabilités pour dire tel a fait ceci, tel a fait cela. Mais pour l'instant, nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux ce qui s'est passé.
Alors, je vais repréciser ma question peut-être autrement. Est-il normal que cette arrestation ait été filmée et ait été diffusée, si on devrait parler d'arrestation?
Nous condamnons cet acte. Nous condamnons cet acte parce que je pense que Monsieur le vice-gouverneur n'a pas posé un acte qui a heurté le mœurs parce que il a été surpris dans une maison. Donc, le fait s'est déroulé dans une maison bien clôturée, fermée. Je pense qu'il n'y a pas eu, le vice-gouverneur n'a pas commis l'infraction d'effraction, il n'a pas cassé la porte pour y accéder. La porte était ouverte à volonté. Donc, je pense que nous avons condamné cet acte de filature de la part de certaines personnes qui se sont retrouvées sur ces lieux au moment de ce que nous avons vu avec vous dans le vidéo qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Je pense que le vice-gouverneur ne mérite pas ce traitement.
Vous parlez de filature, donc vous faites allusion aux forces de l'ordre.
Non, on ne peut pas seulement être filé par les forces de l'ordre. Tout le monde peut faire la filature.
Quand on voit la vidéo, il y a une policière, il y a des officiels. La question est celle de savoir qui a autorisé qu'on puisse filmer et qu'on puisse diffuser. Est-ce qu'on le sait aujourd'hui?
Non, je crois qu'à ce stade-là, nous ne pouvons pas dire quoi que ce soit. Et c'est la justice, le travail de la justice. Donc, nous attendons la résolution de la justice.
Cette affaire a eu des suites. Le vice-gouverneur et le gouverneur ne sont plus à Matadi pour le moment. Qu'est-ce qui leur est reproché par la hiérarchie et qui a motivé leur suspension? C'est de ça qu'on parle, je pense.
Bon, parler de la suspension, je ne sais pas les confirmer parce que moi, je n'ai vu aucun document quant à ça. En tant que conseiller politique, je crois qu'il faudra quand même que le pays fonctionne dans les normes. J'ai lu le message phonique qui a été envoyé à Matadi, où l'ancien ministre, l'ancien vice-ministre de l'Intérieur, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, a demandé au gouverneur et au vice-gouverneur de se rendre à Kinshasa, où il devait se présenter au parquet près de la Cour de cassation, afin qu'il soit entendu par rapport à ces dossiers. Quoi de plus normal, parce que le vice-gouverneur est trempé et est impliqué dans un dossier. Le gouverneur, qui est le chef de l'entité, doit aussi donner sa version des faits en tant que renseignant. Je crois qu'il était le plus normal qu'il puisse se déplacer de Matadi vers Kinshasa. Ça, c'est l'information que moi j'ai, bien que cela s'est produit alors que moi je n'étais pas sur place parce que je suis en déplacement et je suis en train de suivre de loin comme toi cette situation. Donc, à mon entendement, aucun document suspendant le gouvernement n'a été produit, mais il y a un message fourni que le rappela à Kinshasa pour consultation et éventuellement déposer auprès du procureur, auprès de la Cour de cassation, les informations qui détenait par rapport à ces événements.
Qui dirige actuellement la province alors?
La province ne peut pas être abandonnée. Lorsque le gouverneur n'est pas là, automatiquement, c'est le vice-gouverneur qui fait l'intérim. Et lorsque le vice-gouverneur n'est pas là, c'est le ministre le plus pressant qui assume l'intérim de deux. Pour l'instant, le ministre le plus pressant, c'est le ministre professeur en charge de l'intérieur, les confrères, camarades, excellence Marcel et Mantoum Pabouka, c'est lui qui assume l'intérim du gouverneur de province.
Donc au moment où nous parlons, il n'est pas question de suspension du gouverneur, il n'est pas question de révocation.
Non, en tout cas, à mon entendement, je ne vis aucun document dans ce sens.
Pour qu'ils puissent être entendus en tant que renseignants, pour donner leur version des faits, c'est quelque chose qui doit prendre combien de temps?
Bon, un gouverneur n'est pas un monsieur ordinaire. Un vice-gouverneur aussi n'est pas un monsieur ordinaire. Donc la loi a prévu des mécanismes propre pour que le gouverneur et son vice-gouverneur puissent être entendus par les instances judiciaires, sauf s'il y a cas de flagrance. Mais je crois que dans le cas du gouverneur, juridiquement parlant, il n'y a pas de flagrance parce qu'il est renseignant. Mais pour qu'il puisse se présenter auprès de magistrat ou de l'officier du ministère public, la loi prévoit un certain mécanisme. Notamment, vous avez certainement, je crois que vous allez en arriver là, mais j'anticipe. Vous êtes au courant que le procureur, près de la Cour de cassation, a envoyé un réquisitoire auprès de l'Assemblée provinciale du Congo central afin que l'Assemblée provinciale autorise ou non la poursuite du gouverneur par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Donc, il faudra que maintenant, au regard de certaines dispositions réglementaires de l'Assemblée provinciale, en l'occurrence l'article, je crois, 189 du règlement d'intérêt de l'Assemblée provinciale, qui prévoit que pour mettre en accusation un gouverneur, un vice-gouverneur, un ministre provincial, il faudra que cette question soit débattue à la plénière. Et à la plénière, après débat à la plénière, il faut qu'un vote soit fait, soit organisé. Et que pour que cela soit effectif, il faudra que les votes soient en faveur de ces poursuites à la majorité absolue. Donc, comme nos députés sont au nombre de 41, il faudra au moins 42 voix pour se voter pour qu'il y ait poursuite, que le gouverneur soit mis à disposition de la justice et que les enquêtes soient ouvertes à sa charge.
22 voix, c'est ça? Ils sont 41, il faut 22 voix.
22 voix sur 41 députés.
Oui. Est-ce qu'il y a des faits qui sont reprochés au gouverneur?
Je ne sais pas les dire. Ça dépend de la personne qui traite les dossiers. Parce que le gouverneur peut être indexé. Le gouverneur peut être là comme renseignant, tout dépend. Parce que en droit, les qualifications de l'infraction peuvent changer à tout moment. Les juges peuvent changer les qualifications d'une infraction selon qu'ils puissent apprécier le fait et les éléments.
Pour l'instant, il n'y a pas de fait précis reproché au gouverneur.
En tout cas, à ce que je sache, il y a un principe constitutionnel d'ailleurs des présomptions d'innocence. Donc, moi, je présume jusqu'à ce jour que tout ce monde-là est encore innocent jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie définitivement par un jugement coulé en force de son jugé, qui ne va donner accès à aucune voie de recours. Donc, pour l'instant, je pense que les gens sont en train de philosopher, les gens sont en train d'extrapoler, les gens sont en train de réfléchir, chose qu'on ne peut pas interdire aux autres. Mais il faudra que la justice nous dise quoi au finish.
À la suite de ce qui est arrivé le 26 août, le vice-gouverneur a été présenté à un juge. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui lui a été reproché exactement? Parce que là, au départ, vous nous avez dit, il n'y a pas eu d'effraction, il est arrivé dans une maison, tout était fermé, mais c'est en fait finalement des gens qui étaient derrière, qui couraient, qui ont fait des filatures et qui auraient été plus ou moins à la base de la diffusion de ce qui s'est passé. Mais lorsqu'on l'a amené auprès du juge, qu'est-ce qu'on lui reprochait en ce moment-là?
L'instruction étant secrète, nous ne savons pas ce qui était dit dans le procès-verbal, parce qu'il faudra attendre les jugements pour qu'on puisse savoir qui était reproché de quoi.
Donc, est-ce qu'il y a, il y a une procédure en cours à Matadi, actuellement, contre le vice-gouverneur?
Le vice-gouverneur est justiciable devant la cour de cassation, ce qui fait qu'à Matadi, ils ne sont pas compétents à le juger. Apparemment, les histoires sont encore dans le pipeline.
Le 26 août, il a été présenté devant un juge qui, si je vous comprends bien, n'était pas compétent pour le juger, c'est ça?
Non.
Non. Donc, il n'aurait pas dû être présenté à ce juge-là.
Je crois que le juge a constaté les faits parce que à ce stade-là, nous ne savons pas qui était plaignant. Nous ne savons pas qui était plaignant. Bon, maintenant, j'aurais appris, je n'ai pas de pression, mais j'aurais appris que le vice-gouverneur s'était plaint aux instances judiciaires contre Mme Mouita, contre le Redoc, contre les policiers et consorts. Ben, nous ne savons pas exactement, je ne suis pas dans les collectifs de ces avocats, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il réclame dans cette plainte-là. Mais il s'était plaint.
Quel est le rôle du Redoc au niveau de la province, à Matadi?
Le Redoc, c'est un directeur de l'Agence nationale de renseignement. Et je crois que c'est une matière trop technique et liée à la sécurité intérieure. Je ne sais vraiment pas trop m'y pencher, mais le Redoc, il est là pour les renseignements.
Sa présence dans cette maison en ce moment-là faisait-elle partie de son travail habituel ou c'est quelque chose de particulier?
Bon. Nous ne savons pas exactement, mais il n'est pas interdit à un haut responsable du renseignement de se trouver dans un milieu où ces produits s'étaient faits, surtout que c'était le vice-gouverneur qui était concerné. Lui, en tant que collaborateur direct du vice-gouverneur, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il s'y était rendu. Mais ce que nous n'avons pas apprécié, c'est que nous avons vu dans les images vidéo qu'on est tenté de filmer à sa présence et qu'il n'avait pas réagi. C'est là où moi, je mets entre guillemets, il y a eu... Et parce que jusqu'au moment où nous parlons, Justin Lema est le vice-gouverneur de province du Congo central. Et le Redoc dépend du vice-gouverneur. Il est le collaborateur immédiat du vice-gouverneur et il devait apporter protection au vice-gouverneur à cet instant-là. Moi, ça, c'est mon jugement et ma lecture de fait.
Mais à regarder cette vidéo, finalement, quand on voit comment les individus interagissent, l'observateur extérieur identifie où se trouve le pouvoir. Ce n'était pas au niveau du vice-gouverneur, apparemment.
C'est ce que nous avons déploré. Il a été mis dans une situation d'inconfortable où il n'avait pas de pouvoir à ordonner quoi que ce soit. Donc on l'a traumatisé et il n'était pas en mesure de donner ne fût-ce qu'un ordre à qui que ce soit parce que humainement parlant, et je crois que même les Redoc à cet instant devaient donner l'ordre à tous ceux qui étaient en train de filmer, même prendre en otage, saisir ce téléphone-là qui a servi de filmage. Bon, c'est là où nous avons dit que les responsables de service de sécurité a failli un peu parce que c'est lui qui devait protéger en premier lieu le vice-gouverneur de province parce qu'il est vice-gouverneur de province jusqu'à l'instant où il commettait cette infraction-là, s'il y avait infraction.
À l'heure où nous parlons, est-ce que vous avez des nouvelles fraîches du gouverneur et du vice-gouverneur?
Puisque je suis le conseiller politique, je parle avec eux tous les jours.
Comment vont-ils?
Ils vont très bien. Ils sont tous bien, ils sont sereins. Ils sont ensemble tous les jours, ils échangent, ils communiquent tous les jours, ils se partagent des formations. Et ils n'ont rien à se reprocher l'un envers l'autre.
Vous pensez qu'ils pourraient reprendre leur travail il y a un délai à peu près?
Je ne sais pas dire à quel moment, mais ça dépend. Ça, c'est le pouvoir discrétionnel de la tutelle. Et lorsqu'ils analysent que le fait leur reprocher ne constitue pas de faction ou qu'il y a peut-être imprudence ou peut-être légèreté dans le traitement de tel ou tel aspect, je crois que l'autorité n'a qu'à apprécier. Ils peuvent rentrer aujourd'hui, demain après demain. Ça dépend de l'autorité des tutelles. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il y a plus de peur que de mal.
Il y a plus de peur que de mal.
Ouais.
Il y a une rumeur qui circule selon laquelle M. Antoine Gonda serait candidat au poste de gouverneur de la province du Congo central.
Vous avez employé les conditionnels. Je ne sais rien confirmer, mais il faudra savoir s'il y a vacance dans les postes de gouverneur du Congo central.
En fait, c'était ma question. Donc, il n'y a pas vacance aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir des candidats.
Vous êtes au courant qu'il n'y a pas vacance, il y a un gouverneur en fonction. Vous allez parler des candidats comme alors qu'il y a un gouverneur en fonction.
Monsieur Merfiloutete, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous laisse le temps de prononcer le mot de la fin.
Alors, le mot de la fin, à cet instant, nous devons appeler chacun à ce qui concerne, surtout vous les hommes des médias. Vous devez beaucoup travailler dans le cadre de la cohésion provinciale, la paix et l'unité du Congo central. Il ne faudra pas que nous puissions laisser la population errer et se heurter dans les antivaleurs, parce que lorsque vous entendez certains messages, excusez-moi, certains messages, certains appels qui viennent des différents groupes qui frisent les conflits ethniques, nous ne sommes pas pris au Congo central d'hériter de ce genre de conflits. Le Congo central, c'est la seule province qui n'a pas été divisée. Le Congo central, c'est la seule province qui a gardé son unité depuis l'époque coloniale. Il faudra que nous puissions demeurer dans les Makoko Matatu que nos ancêtres nous ont laissés pour que nous puissions gérer cette province. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur qui est de l'Ekatarat, un vice-gouverneur qui est du Bas-Fleuve, un président de l'Assemblée qui est de l'Ukraya. C'est ça le Makoko Matatu. Et c'est ce qui démontre l'unité des peuples Congo. Il ne faudra pas que les gens viennent souffler les vents, les démons de la division au sein du peuple du Congo central. Nous ne sommes pas prêts. Nous, les leaders d'opinion, la jeunesse responsable, les autorités politico-administratives, les députés nationaux, surtout nos nationaux doivent être attentifs aux problèmes de la province. Ils ne doivent pas allumer le feu. Ils doivent être aux côtés des dirigeants pour les encadrer et encadrer la population. Ça fait mal lorsqu'on voit certains députés nationaux qui se livrent à certaines pratiques, je ne peux pas dire ici, ça fait très mal, mais je pense que leur mission, c'est de nous arracher le plus des avantages possibles à l'Assemblée nationale et aussi militer pour la cohésion professionnelle. Donc je suis en train d'attirer la jeunesse de Madimba, la jeunesse de Katarat, la jeunesse du Bas-Fleuve, des Bomamata, du Mwanda, de partout, à la cohésion, à l'unité et à l'amour. C'est ce qui va faire la force du Congo central. Notre unité ne met pas à l'aise nos adversaires. Vous savez, les gens sont jaloux de notre unité et cherchent à tout faire pour nous déstabiliser. Nous devons rester vigilants, respecter les institutions de la province, respecter les autorités provinciales, respecter de nos frères et sœurs. C'est ce qui va faire la force du Congo central. Donc, j'en appelle à la paix, à la cohésion et à l'unité provinciale.
Merci, merci beaucoup et à la fois prochaine. Amis à l'écoute, merci pour votre fidélité. Nous recevions aujourd'hui Maître Merfiloutete, avocat au barreau de Matadi et conseiller du gouverneur Atou Matubwanga. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube afin d'améliorer notre référencement et à la fois prochaine.